mercredi, on va recevoir un chroniqueur politique que vous connaissez bien parce qu'il a même co-animé l'émission que vous écoutez présentement il n'y a pas si longtemps avec Myriam Segal. Puis ensuite, il était chroniqueur et il va rester chroniqueur avec nous. C'est Luc Lavoie qui est au bout du fil. Salut Luc!
Ça va?
Ça va super bien. Écoute, merci. Je suis content qu'on se retrouve puis qu'on va jaser en ondes. Puis surtout qu'on n'est pas toujours d'accord. C'est ça que j'aime. Et aujourd'hui, ça commence en grand parce que c'est un sujet avec lequel je sens qu'on va, on va se coltailler un peu. Parce que hier, s'est ouvert le procès en destitution de Donald Trump. Je veux d'abord que tu m'expliques pourquoi les démocrates s'engagent dans cette procédure-là quand on sait parfaitement qu'ils sont minoritaires au Sénat et que leur procédure, de toute façon, est vouée à l'échec.
Ben écoute, je vais te surprendre, on pourra pas se prendre aux cheveux, là, mais dès le début de cette opération-là, lancée par Nancy Pelosi, moi j'ai dit immédiatement, quelle absurdité! Parce que tu fais un spectacle, puis tu sais que tu vas perdre.
Ben oui.
Alors pourquoi tu fais ça? Deuxièmement, si t'étais pour prendre Trump sur quelque chose qui était impeachable, là, comment on dirait ça, destituable, t'sais. C'était pas fort, cela, là. Je veux dire, j'avoue que le coup de téléphone à Zelensky en Ukraine pour lui dire d'enquêter sur Biden, c'est fort en café, pas mal. Maintenant, est-ce que c'est une matière à destituer quelqu'un? Est-ce que cela constituait un crime? Est-ce qu'il y a eu des conséquences dramatiques? Par exemple, l'aide qui aurait été retenue, l'aide militaire à l'Ukraine qui a été retenue, il n'a pas été retenu longtemps. Ont-ils reçu l'aide? Oui. Alors, à l'heure actuelle, moi, ce que je vois, c'est un parti démocrate qui est en train de se faire harakiri sur la place publique. C'est rendu que ça intéresse plus personne. C'est rendu que les codes d'écoute des réseaux de nouvelles en continu s'effondrent parce qu'ils ne parlent que de ça puis ça intéresse personne. Et pendant que Trump est en train d'aligner quelques accomplissements, certains sont certainement contestables, mais on peut pas nier que ces choses-là sont arrivées.
Mais donc, l'entente avec la Chine, c'est pas mineur. Là. Le fait
non,
qu'il
non, est
en train
mineur,
de réduire le déséquilibre commercial entre la Chine et les États-Unis de moitié, c'est 200 milliards. Là. C'est énorme. Là.
Non, je le sais. Depuis le début, parce que tu sais que j'ai pas une très haute opinion de Trump.
J'ai entendu quelquefois.
Personnage vulgaire, personnage ignorant, personnage narcissique et tout ça. Maintenant, tu mets les personnalités de côté, là. Sur le dossier de la Chine, il a depuis le début parfaitement raison. Le fait est que ses prédécesseurs ont pas eu, si tu me permets l'expression, le guts de faire ce qu'on pouvait faire.
Ouais.
Tu peux pas avoir une relation commerciale avec un pays et te retrouver qu'un déficit de 500 milliards. Ça n'a aucun sens. Et il fallait que quelque chose soit fait. Alors, je reviens à mon argument de tout à l'heure.
Ouais.
D'abord, l'ALENA 2.0, il est adopté à Washington, puis il va l'être ici la semaine prochaine.
Ouais.
Accomplissement numéro un. Puis là-dedans, il y a des bons... Disons, il y a des bonnes choses pour son électorat de base, là, les producteurs laitiers du Midwest, puis tout ça. Ensuite, vous avez cet accord avec la Chine qui est en train de se mettre en place petit à petit. C'est loin d'être mineur, c'est même extrêmement important. Ensuite, et là, des fois, dans la vie, on est chanceux, la décision d'abattre, de descendre par drone le général Soleimani, à mon avis, était une erreur catastrophique, mais c'est en train de tourner pour lui. Pourquoi c'est en train de tourner pour lui? Parce qu'en faisant ce qu'il a fait, il a provoqué ce qui est devenu l'accident qui a fait tant de victimes d'un avion civil. Et ce faisant, il a déstabilisé le régime d'Iran. On les sent plus fragilisés que jamais.
Puis on a l'impression aussi que le gouvernement américain là-dedans, comme dans ce qui se passe au Hong Kong, il est du côté des dissidents qui se battent pour de la démocratie. Moi, je trouve que là-dessus, là, c'est rare qu'on voit des leaders occidentaux avoir le courage de faire ça.
Oui, d'accord.
Parce qu'il y a quand même des manifestations importantes à Téhéran, puis en Iran, un peu partout. Là,
mm-hmm.
Et de voir qu'un leader occidental pogne le régime de front, ça donne du gaz, pas au sens propre, là, mais ça donne de l'énergie aux manifestants qui se battent pour un peu plus de démocratie dans ces dictatures-là. Là.
Oui. Alors revenons à notre point de départ, qui est ce procès en destitution qui vient de commencer. Je veux dire, Trump est mort de rire. En fait, il a réussi en plus. Et là, je suis en train d'être obligé d'admettre qu'il y a peut-être plus de flair stratégique que je le croyais. Je pensais qu'il n'agissait que par impulsion. Mais là, je le regarde aller. Il est en train de mettre en place ces morceaux-là. Puis pendant ce temps-là, les démocrates se font un petit spectacle au Congrès. Trump leur a répondu par la bouche de ses canons. Il a retenu les services d'avocat Alan Dershowitz, qui est un des grands constitutionnalistes des États-Unis. Kenneth Starr, ça, c'est à se rouler les drilles.
L'ancien Kenneth Starr.
Oui, l'ancien Kenneth Starr, celui qui a tout fait, qui est parti une enquête sur un problème d'immobilier, puis que ça a fini avec une fellation dans le bureau Oval.
C'est lui qui était avec l'affaire de Monica Lewinsky contre Clinton à l'époque, là.
Eh oui, alors ils sont là, puis ils se font leur petit spectacle, puis après ça, ils se font ils se préparent pour les primaires, puis là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Joe Biden, je veux pas faire de l'âgisme, mais il a vraiment l'air d'un vieillard, soudainement. Là.
Il a l'air fatigué.
Il a l'air très fatigué, puis il a pas la même acuité intellectuelle qu'on lui a déjà connue. Bernie Sanders, il semble avoir toute son acuité intellectuelle, mais il a 74 ans ou 75, mais il a l'air d'en avoir 90, tu comprends? Là? Il a le dos voûté, tout ça. Et il tient un discours très extrémiste. Dans le contexte américain.
Absolument.
Vous avez à côté de ça Elizabeth Warren. Tu peux pas avoir un archétype plus évident de ce que les électeurs américains ont rejeté en 2016. L'establishment du nord-est des États-Unis, des grandes universités Ivy, là, elle était professeure.
C'est pire que Hillary Clinton. Là,
Oui. C'est une véritable caricature. Ensuite, t'as le petit maire là, de je ne sais trop où, là. Peter Buttigieg, j'arrive jamais à prononcer son nom. Vas-y, non, Éric.
On oublie ça, je te laisse.
C'est vrai qu'il y a un certain bagou, tout ça, mais tu sais, ça fait pas très, très, très sérieux là, pour devenir président des États-Unis, bien qu'une fois qu'on ait élu Trump, à peu près n'importe qui peut aspirer à ce poste-là. Puis, ça fait que les démocrates ont l'air de ce qu'on les soupçonne d'être, c'est-à-dire un parti infiltré par je ne sais combien de groupuscules, un parti qui se cherche, un parti sans leadership, un parti à la dérive. Puis t'as Trump qui est au milieu de ça, puis qui...
Mais, Trump, là, il était battable, dans le sens où il y a des faiblesses, tu t'en as parlé un peu au début, là. Mais là, premièrement, les trois principaux prétendants contre lui qui ont au-dessus de 70 ans, puis Nancy Pelosi, j'en parle même pas, là.
Oui.
Comment ça se fait qu'aux États-Unis, t'es pas capable d'avoir un leader qui est dans cinquantaine ou même dans soixantaine? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que... Ils ont tous... Écoute, là, tantôt, tu disais...
C'est une gérontocratie.
Écoute, tu disais 75 ans, t'as été gentil pour Biden. Là. Il y a 78... pour Biden, pour Sanders, il y a 78. Biden a 77. Puis Elizabeth Warren a 72.
Eh oui. Et Trump a 73.
Puis mais c'est le jeune du lot.
Oui, c'est le jeune du lot. Alors, tu sais, mais pourtant, il n'y a pas si longtemps, tu sais, Obama était un jeune président. Avant lui, là, George W. Bush était un jeune président. Puis avant lui, Bill Clinton était un jeune président. Puis avant lui, ben George H.W. Bush, à ce moment-là, il avait pas plus que 62, 63 ans quand il a été élu. Et on peut continuer. Ben, t'avais Ronald Reagan, là, qui était le premier de la gérontocratie. Alors, revenons à notre procès.
Une farce.
Je veux dire, j'ai essayé hier, Éric, j'ai essayé. J'ai dit, là, je m'installe, puis je vais les écouter commenter. Écoute, je suis tombé endormi au bout de 6-7 minutes. Qu'est-ce qu'ils racontent? Pendant que le pays est dans toutes sortes de dossiers, puis tout ça, eux autres, ils font de la procédurite, puis ils votent à 1h30 du matin pour savoir s'ils vont entendre des témoins ou pas entendre des témoins, et si oui, quel témoin, puis de quelle manière. Imagine, t'es un citoyen américain, t'es un contribuable.
T'es loin de ça, là, t'es loin de ta préoccupation.
Tu peux pas être plus loin que ça.
Mais il y a une autre affaire aussi que je sais pas si les démocrates ont évalué, mais vu de l'extérieur, là, puis moi, je suis même pas un électeur, puis je suis même pas un partisan là-dedans. Là. Mais tu dis, il va y avoir une élection dans 10 mois, OK? Eux autres sont en train d'essayer de décider à la place des électeurs. Pourquoi qu'ils laissent pas les électeurs décider, qu'ils en parlent, qu'ils fassent campagne contre lui, qu'ils essaient de convaincre du monde? Mais ultimement, c'est pas des sénateurs qui vont décider qui peut être président puis qui peut pas être président. S'il a fait quelque chose qu'eux jugent qui est immoral ou qui a pas d'allure, ben qu'ils le mettent en évidence puis qu'ils demandent aux gens de voter contre. Je trouve qu'ils ont, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train si on était à 4 ans des élections ou 3 ans, je comprendrais, mais à veille des élections, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer d'enlever le droit des Américains de décider qui va être le prochain président.
Ah, ben là, tu tiens bien le discours que Trump a répandu et tous ses défenseurs.
Ça a marché.
Et qui, là, ben
je
oui,
le répète aujourd'hui, puis je savais même pas que c'était lui qui a parti le bal.
Ça a fini par marcher, effectivement. les gens disent, là, moi, j'ai un ami américain avec qui je suis constamment en contact, Il y a un gars très sophistiqué, tout ça, mais qui est pro-Trump. J'ai eu de la difficulté à le comprendre au début, là, mais à longue, il m'aide à comprendre certains phénomènes. Eux, ils sont totalement de l'avis que tout ce qu'on veut, c'est dire aux électeurs, vous aviez pas le droit de voter pour lui en 2016, puis ça n'avait pas de bon sens. Nous, les bonzes de la société du nord-est des États-Unis, les bien-pensants de Boston, de New York, de Philadelphie, tout ça, nous, on va vous dire c'est quoi un vrai président, puis on va vous dire jusqu'où ça peut aller, puis qu'est-ce que ça peut faire. Maintenant, je continue de penser que Donald Trump comme président, c'est le signe d'une société un peu malade.
Ben, c'est-à-dire que c'est l'ère de la télé-réalité.
Ben oui, mais comprends-tu? Le seul fait qu'il est aussi ignorant qu'il l'est, j'en reviens pas.
Oh, mais attends une minute, là. Moi, je pense quand on se regarde, il faut faire attention, là, parce qu'en tant que Canadien qui avons élu Justin Trudeau, là, on n'a pas de leçon à donner sur comment élire des grands leaders intellectuels. On s'entend-tu, là?
Oui, mais c'est pas, Selfie, je parlais pas de grands leaders intellectuels. Je parlais de personnes un peu moins vulgaires, puis qui avaient lu quelques livres. Lui, le dernier livre qu'il a lu, c'était Le bottin téléphonique, puis ça n'existe plus depuis 20 ans.
Mais on s'entend que même à Ottawa, là, on est loin de l'époque des Pierre Trudeau, des René Lévesque, même des Brian Mulroney, des Stephen Harper, nomme-les, là, je veux dire, j'ai l'impression que c'est vrai un peu partout. Là. Il y a comme la
fonction
politique attire moins ou je sais pas quoi.
Ben, ça attire moins d'une part, puis d'autre part, on est dans une époque, c'était formidable l'époque des Pierre Elliott Trudeau, René Lévesque, tout ça. On vivait encore de l'abondance de prospérité qui avait été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, il y a eu des soubresauts de crise énergétique, mais fondamentalement, tu t'en allais en politique, puis tu imaginais des grands programmes, puis là, t'avais des grands fonctionnaires qui se soignaient, puis là, c'est plus ça, là.
Mais non.
Maintenant, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est gérer les livres comptables, puis on peut dire que là-dessus, Trudeau est pas bien fort. Mais on peut dire la même chose de Trump, là. M'a dit, c'est le plus gros déficit qu'on a jamais vu. On pensait jamais qu'on puisse atteindre un niveau qui dépasse les 1 000 milliards de déficit.
Mais tantôt, tu parlais qu'il était chanceux. Là. Le fait aussi, oublie pas que la bourse fonctionne bien. L'économie américaine roule à fond. Ça c'est souvent les présidents et les politiciens n'ont rien à voir avec ça, là, ou très peu. Mais ça aide à maudit à te faire réélire, par exemple.
Oui, mais il se trouve que je lui concède qu'il y a quelque chose à voir. Je veux dire, quand tu déréglementes tout, quand tu fais sauter tous les verrous, quand tu agis comme il agit, à un moment donné, il va se créer de la richesse. Maintenant, à quel prix on va se créer de la richesse, ça, c'est d'autres choses. Il y a des grands défis aux États-Unis. Par exemple, l'écart qui s'élargit sans cesse entre les pauvres et les plus nantis, c'est pas gage d'une paix sociale extraordinaire.
Tantôt, tu as souligné le fait que il y a beaucoup de républicains aux États-Unis qui ont l'impression que les bien-pensants du Nord-Est essayent de décider pour eux. Puis, ça, là, moi, je partage ce sentiment-là pour une raison, Luc. Je me souviens du lendemain de l'élection de Donald Trump où les manifestations avaient commencé. Ils ont commencé à manifester contre le résultat du vote. Mm-hmm. Et ça m'en a dit beaucoup. J'ai l'impression que ça a jamais passé, l'élection de Trump. Puis, on a vu Hillary Clinton qui a fait une tournée mondiale. Puis je pense qu'elle est encore en tournée mondiale. Ça fait 3 ans et demi pour expliquer comment ça se fait que le peuple américain avait tort puis elle avait raison. Puis comment ça se fait qu'on n'a rien compris.
Ouais. Attention, Eric. Il faut jamais oublier que, oui, Trump a gagné à cause du système électoral américain, mais elle a eu 3 millions de votes de plus que lui.
Ben oui, puis Trudeau, il a eu moins de votes qu'Andrew Scheer. Il n'y a pas personne, il n'y a pas de conservateurs au Canada qui se promènent puis qui font le tour du pays pour dire qu'on n'a rien compris puis que Trudeau n'a pas d'affaires là puis qu'il y a eu moins de votes. Le système électoral est fait comme ça. Lucien Bouchard aussi a été élu avec moins de votes contre Jean Charest à une certaine époque. Je veux dire,
oui, t'as raison.
C'est des affaires qui arrivent souvent. Comment ça se fait qu'au Canada, il n'y a personne? Je suis probablement le premier qui te le dit, là, que Scheer, il y a eu plus de votes que Trudeau.
Je le savais, c'est pas pire, je regarde ça des fois.
Bon, c'est pas pire. Mais tu vois, mais aux États-Unis, c'est parce qu'on l'entend tous les jours.
Ouais.
J'ai comme l'impression que c'est des mauvais perdants. Les Anglais disent « sore losers ». J'ai l'impression qu'ils sont encore pognés, ils ont encore ça de travers de la gorge. À un moment donné, pendant ce temps-là, ils font...
L'espèce d'élite intellectuelle du Nord-Est, celui-là, en travers de la gorge, tu peux être sûr.
Puis c'est ça que je pense qui est en train de couler le Parti démocrate. Au lieu de faire ses devoirs, puis de s'assurer d'avoir un bon candidat puis un bon programme pour cette année, ils ont passé 3 ans à dire au monde qu'il y avait tort puis qu'eux autres avaient eu raison.
Et puis ils ont passé les 3 années en question à patauger dans toutes les directions. Je serais même pas capable de te dire qu'est-ce qu'ils représentent maintenant, les démocrates. Autrefois, ils représentaient l'école bleue, mais ils ont complètement perdu. Ils sont partis avec Trump. Quand le Parti démocrate a cessé d'être un parti qui se débattaient au nom des droits des travailleurs, puis qui sont devenus un parti qui se débattait pour le mariage gay, puis pour le je sais pas quelle autre affaire, là, toutes ces nouvelles affaires à la mode, puis les trans, puis les ci, puis les ça, les gens ont dit, c'est qui ça? De qui est-ce qu'il parle, là, je veux dire. Écoute, Germaine, l'as-tu entendu?
Non, non, mais c'est ça. Ils se sont complètement déconnectés de leur base, puis j'ai l'impression
leur base est devenue la base de Trump.
Oui,
c'est quand même renversant, là.
Oui, c'est renversant, puis c'est historique. Mais écoute, Luc, c'était une première, pas une dernière. On va se reprendre la semaine prochaine.
On devrait trouver un sujet pour se pogner aux cheveux.
Parce que là, je pensais qu'on en avait trouvé un, mais meilleure chance la semaine prochaine.
Salut.
Luc Lavoie, merci, bye.